podcast du Ridon.
Rebonjour les enfants. Nous voici pour la suite, chapitre 58, qui est la mitzvah de la Souka. Cette mitzvah de Souka, qui fait partie de ces mitzvot, qui suit l'effet de Tishri, où il n'y a qu'une seule mitzvah, c'est celle d'habiter, de manger, de boire durant les 7 jours de Soukhot. En effet, la mitzvah est Soukhot Teiju Shivat Yamim. Dans une soukha, vous vous installerez durant 7 jours, c'est-à-dire y habiter de la même manière qu'on habite à la maison. Elle s'applique en tout temps, partout, et pour les hommes uniquement. Alors, voyons voir un petit peu les détails de cette mitzvah, les précisions de cette mitzvah. Déjà sur la soukha, durant cette nuit et 7 jours de la soukha, on mange, on boit, on vit littéralement dans la soukha, comme si c'était notre habitation principale. Pour que la soukha soit kasha, doit avoir minimum 3 murs. 2 de ces murs doivent avoir la longueur de 7 tfachim. Un tefach étant à peu près 9 cm, c'est-à-dire un peu moins de 70 cm. Le troisième mur doit faire minimum un tefach, donc 9 cm. Ça, c'est pour la longueur des murs de la soukha. Pour sa hauteur, par contre, minimum 10 tfachim, c'est-à-dire à peu près 90 cm. Un peu plus haut, bien sûr, il n'y a pas de problème, mais pas trop haut, pas plus que 20 coudées, c'est-à-dire une dizaine de mètres. Les murs peuvent être faits de n'importe quelle matière qu'on désire faire les murs de la soukha. Il faut juste que ce soit assez solide, que ce soit appelé un mur, donc un vrai mur entre l'habitation, c'est-à-dire l'intérieur de la soukha, et l'extérieur. Là, nous arrivons à la partie essentielle de la soukha, qui est le srar. Le srar, c'est ce toit qui est en feuillage. En effet, ce n'est pas un toit normal. Il doit être de quelque chose qui pousse du végétal. Mais il faut qu'il ait les couper au préalable. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir un arbre qui pousse et qui se pose sous la soukha directement son feuillage. S'il s'est fait d'un objet qui peut éventuellement devenir impur, comme un ustensile de bois par exemple, à ce moment-là, il n'est pas cachère. Non plus, on ne fait pas avec un feuillage qui aurait de mauvaise odeur ou des feuilles déjà séchées qui peuvent tomber. Puisque la soukha est tellement importante, et surtout le srar, puisque c'est ce qui fait la mitzvah, la dernière étape, l'étape finale de la soukha, c'est justement ce srar. On commence par le mur et on termine par le toit. Le srar qui a été posé sur 2 murs, quand le troisième a été ajouté plus tard, comme nous l'avons dit, la soukha n'est cachère seulement si elle a 3 murs, donc le srar posé avant que la soukha soit cachère, automatiquement, toute la soukha n'est plus cachère, avoir une soukha terminé avec ces 3 murs pour pouvoir poser le srar et que la soukha soit kasher. La soukha doit donner de l'ombre, c'est-à-dire que l'ombre qui est à l'intérieur de la soukha est plus que la lumière du jour qu'on voit à l'intérieur de la soukha. Mais le srar, c'est vrai qu'il doit faire l'ombre, doit créer cette ombre pour cacher la lumière. Mais s'il est trop épais, qu'on ne voit même plus les étoiles, à ce moment-là, ce n'est pas bon. Il faut une ouverture, il faut que les étoiles soient visibles. La soukha doit être complètement recouverte de srar. Il ne faut pas qu'il y ait un vide qui fasse plus de 3 tfachim, donc un peu moins de 30 cm. S'il y a un trou d'à peu près 30 cm, c'est qu'on n'a pas recouvert suffisamment de srar. Avec quoi on peut fixer ce srar, justement? Aussi, puisque ça vient fixer le srach, il faut que ce soit fait de matériaux qui sont autorisés pour utiliser justement pour ce srach qui doit être du végétal. Donc on peut avoir des roseaux, on pourrait avoir des bouts de bois fins, peuvent soutenir ce srach. Si le srach a été posé sur du métal, il faut mettre du bois entre les deux, donc que le srach ne pose pas directement sur le métal. S'il y a du vent, évidemment, l'idée n'est pas que le srach s'envole, mais on pourrait l'attacher. Et bien sûr, le srach doit être sous le ciel, c'est-à-dire faire attention qu'il n'y ait pas d'arbre au-dessus. Alors, venons à la suite. Qu'est-ce que ça veut dire habiter dans la soukha? Première nuit de Soukhot, qui est la mitzvah de la Torah d'habiter sous la soukha, il faut manger au moins un kazait, c'est-à-dire 30 grammes de pain sous la soukha. Les autres jours de Soukhot, les repas de Hamotzi, Maisonot, doivent être mangés sous la soukha. Les autres repas, des fruits, boissons, légumes, on a le droit de les consommer en dehors de la soukha. Bien que, c'est bien, à partir du moment où on a une soukha, c'est la fête de Soukhot, de faire en sorte de manger ou de boire le maximum de choses possibles sous la soukha. Sous la soukha également, on fait tout ce qu'on aurait l'habitude de faire à la maison. Boire, manger, étudier et même se reposer. Ah, si on parle de se reposer, eh bien, parlons de la suite. Il y a le mitztaïr, celui qui souffre sous la soukha. Il n'est pas à l'aise à cause de la météo, à cause de mauvaises odeurs, ou de bestioles qui peuvent voler sous la soukha. Nous sommes quand même à l'extérieur. À ce moment-là, il est exempté de dormir ou même de manger sous la soukha. La bénédiction que nous récitons avant de consommer, que ce soit le pain, donc le motzi, que ce soit un morceau de gâteau ou un maisonnote, ou même avant de boire du vin sous la soukha, c'est Asher qui les chanou bemizotav vetsivanou, les chèvres, d'être installés, assis, basoukha, dans la soukha. Également, la première fois, on dira, on récitera la bénédiction du Shehianou, cette mitzvah qu'on fait sous la soukha pour la première fois. Donc, évidemment, chaque fois qu'on renouvelle une mitzvah dans l'année, pour la première fois, on récite cette bénédiction de Shehecheinu, on remercie Dieu de nous laisser vivre et avoir la possibilité, encore une fois, de faire cette mitzvah. Alors, regardons quelques halakhot. Planche de bois qui est large de 4 tfachim, donc un peu moins de 40 cm, qui est posée sur la soukha, ce n'est pas du srach. C'est vrai que c'est du bois. On a parlé de fines planches de bois. Donc, pour que ce soit kasher, ça peut être au centre de la soukha. Mais si c'est sur un côté, là, ça sera considéré comme un allongement du mur, et donc la soukha reste kasher. Les murs de la soukha doivent être posés sur le sol. La hauteur ne doit pourtant pas arriver jusqu'au srach. Il suffit qu'il y ait 10 tfachim, donc 90 cm du sol pour la soukha, ça suffit. On n'a pas besoin d'avoir un mur qui touche le srach. Par contre, un mur de la soukha qui touche le srach, bien sûr, c'est cachère. Si en bas, ça ne touche pas le sol également. Cependant, il ne faut pas que ça n'existe pas un mur qui vole. Donc, on ne peut pas avoir un mur de soukha qui suspend de cette manière et qui n'est pas appelé posé sur le sol. C'est pourquoi la halakha nous dit il faut qu'il n'y ait pas plus que 3 tfachim, donc 27 cm à peu près, ce qui permet un espace où il y a des animaux, etc., d'entrer sous la soukha. Mais, ce que je veux dire, c'est un espace raisonnable, ce qui s'appelle comme si que c'est collé au sol. Toujours dans le chapitre 58, deuxième niveau. Qu'est-ce qu'on doit savoir d'important sur la souka? C'est bien les houchpizines. En effet, les enfants, nous avons ces houchpizines, sont les invités sous la souka. Le Zohar nous enseigne que la grandeur de la souka, qui est toute cette sainteté qui est sous cette souka, où la shrina, la présence divine, y réside. Nous avons sept grands tzedikis. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David, qui viennent du Gan Eden pour être près de nous, sous la souka, et profiter de la shrina, de cette divinité qui réside sous la souka. Chacune de ces sept neshamot qui vient sous la souka, chaque soir de Sukkot. Mais, on a une neshama, une âme de ces sept tzadikim, qui prend la tête du cortège un soir, et c'est ce qu'on appelle les houchpizim. Ce mot houchpizim est en araméen, qui veut dire en hébreu des invités. Afin de les accueillir, on a pris l'habitude de lire en leur honneur une invitation en entrant sous la souka. Donc, pour la première fois, la première nuit de la fête, à part que beaucoup ont l'habitude également d'inviter les houchpizim, donc avoir une invitation, une parole pour les houchpizim, chaque fois que l'on mange sous la souka, il y a ceux qui ont l'habitude de mettre une belle chaise réservée à l'invité du soir, ou bien des livres, des livres Kodesh, bien sûr, pour ses invités. Il y a la décoration de la souka. Décoration de la souka, il y a une coutume de rendre la souka plus belle et de la décorer, soit sous le srach, ou bien même sur les murs. Ces décorations, à partir du moment où elles sont utiles pour la souka, c'est-à-dire que c'est une mitzvah. Si c'est une mitzvah, on n'a pas le droit de les utiliser, ni de les toucher pendant Yom Tov. D'autres n'ont pas l'habitude de décorer la souka, puisque la beauté de la souka étant la souka elle-même, inutile d'ajouter des décorations. Donc, il y a ceux qui ont l'habitude de faire ces décorations, d'autres qui n'ont pas l'habitude d'ajouter des choses en plus de la souka. Sukkot a 7 jours, plus 1. Le 8e jour, qui a un nom à part, ne s'appelle pas Sukkot, mais bien Shmini Atzeret. C'est comme ça qu'il est appelé dans la Torah. Shmini Atzeret, qui veut dire le 8e jour de rassemblement. En dehors d'Eretz Israël, où il y a toujours un jour supplémentaire de fête, ce 8e jour reste dans le doute. Est-ce que c'est le 7e? Peut-être on a encore l'obligation de rester sous la souka, ou bien c'est réellement le 8e. C'est la raison pour laquelle on continue de manger, de boire sous la souka. Mais puisque c'est à cause du doute, on ne récitera pas de bénédiction. La fête de Shmini Atzeret étant une fête à part entière, donc c'est la suite de Sukkot. Elle reste séparée de Sukkot. On dira la bénédiction de Shehriyanu. Il y a une prière spéciale que l'on récite le Shmini Atzeret, c'est cette prière qui est Tfilat Geshem, la prière de la pluie. On demande à Dieu qu'il nous envoie la pluie. De la même manière, c'est un jour de fête, donc on lit la Torah avec ce qu'on appelle 5 personnes pour monter à la Torah, et on fait bien sûr un repas de fête. Le lendemain de Shmini Atzeret, ce 9e jour qui est le second jour de Shmini Atzeret réellement, c'est celui qu'on appelle Simchat Torah. Simchat Torah qui est la joie de la Torah. Cette Simchat Torah, en Eretz Israël, c'est le jour de Shmini Atzeret, c'est ce 8e jour. Mais en dehors d'Eretz Israël, puisqu'on ajoute un jour, c'est le jour qui suit Shmini Atzeret. Ce jour-là, c'est ce jour de Simchat Torah, de réjouissance de la Torah. On conclut le Sefer Torah. On termine toute la Torah avec la dernière paracha de Vezot Abracha, mais on recommence immédiatement la lecture à nouveau avec Bereshit. Donc, ce jour de Simchat Torah, pour bien montrer qu'on aime la Torah, qu'on se réjouit avec la Torah, c'est là où on fait ce qu'on appelle les Hakafot. Les Hakafot, c'est qu'on prend la Torah et on danse avec. Et on sort tous les Sefer Torah qu'il y a dans le Aron HaKodesh, dans le Hiral. avec lesquels la kafot veut dire tourner. On tournera 7 fois autour de la bima, la teva, c'est-à-dire là, l'endroit où on a l'habitude de lire la Torah. Il y a ceux qui ont l'habitude également de faire des hakafot le premier soir de Shmini Atzeret. À Simchat Torah, au moment où on lit la Torah, on sort la Torah et on conclut, on va lire sa dernière paracha, chacun monte à la Torah. Même les enfants qui ne sont pas encore arrivés à l'âge de Bar Mitzvah. Pour cela, on peut répéter la lecture à plusieurs reprises et à chaque montée, on peut faire monter plusieurs personnes en même temps jusqu'à avoir fait monter tous ceux qui sont présents à la synagogue ce jour-là pour faire la bracha sur la Torah. On a l'habitude également de donner des cadeaux aux enfants, des douceurs, des fruits, pour bien montrer que les mitzvot d'Hachem et que la Torah qu'Hachem nous a donnée, c'est aussi doux que le miel, c'est-à-dire ce sont des douceurs qu'Hachem nous donne. Bonne réussite pour ce chapitre. À bientôt.